Les lions de la SF.
Ouais, les lions de la SF. Les lions de la SF.
Le lion de la SF.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, eh bien, bonne nouvelle. Je ne suis plus seule. Je ne pleurerai donc pas.
Parce que tu pleures quand je suis pas là.
Exactement, je pleure, je suis triste.
Mais j'étais juste un petit peu partie, j'ai pas le droit d'aller faire de la moto en Espagne.
Si, mais pas pendant des mois et des mois.
Ben quoi, aujourd'hui je t'aide.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais enfin faire une émission que j'aurais dû faire depuis 3 ans.
Je sais qui c'est, j'ai deviné. J'ai sûr que c'est Jean-Claude.
Eh oui, c'est Jean-Claude. Je passe mon temps à interviewer Jean-Claude et à perdre les interviews.
La honte.
Ouais.
T'as de la chance que c'est Jean-Claude. Hein, parce oui. Que je sais pas, mais un autre, il t'aurait déjà étripé.
Alors que lui, comme il parle pas beaucoup, mais qu'il ment beaucoup, j'arrive toujours à lui redemander un entretien. Et il a pas l'air de trop m'en vouloir.
Bon.
Mais il est temps que ça cesse quand même, ce petit jeu.
Alors, on peut l'écouter. Oui, Ozut, t'as fini de causer, là?
Oui, d'accord, ça va.
Allez, laisse parler Jean-Claude.
Les lions de la SF.
Jean-Claude Dugnac, 3506e.
Au moins.
Mais on va y arriver, hein. Déjà, bonjour. On fête, enfin, l'arrivée d'un nouveau recueil. La dernière fois, tu m'avais dit que tu avais changé de manière de travailler.
La dernière fois, c'était dans l'interview qui s'est perdue entre le ciel et la terre.
Non, c'est celle de l'an dernier que j'ai gardée. Ouais.
C'est super. Parce qu'en fait, on se parle plein de fois, mais vous, auditeurs, vous ne le savez pas. Et donc, oui, effectivement, j'ai changé un petit peu de manière de travailler. J'ai réfléchi sur le nouveau recueil et sur les choses que je suis en train d'écrire maintenant, justement, à me dire deux choses. D'abord, je pars en étant un peu moins sûr de moi, c'est-à-dire en ayant un peu moins d'informations relatives à l'histoire que j'écris. J'écris en particulier des histoires dont je ne sais pas grand-chose, ce qui par rapport à une époque où je savais tout. Et puis, je parle de choses qui me concernent moi directement, au lieu d'être simplement des histoires qui me viennent comme ça. C'est-à-dire que j'ai 50 ans passé, je me dis, tiens, de quoi est-ce que j'ai envie de parler? Qu'est-ce que je peux avoir la prétention de dire que je sais? Voilà. J'ai des questions idiotes, mais ça me tracasse un peu. Alors, le premier truc, ça a été la mort. Le deuxième, qui est peut-être plus important pour moi encore, c'est la magie. Et ça va être de magie dont j'ai l'intention de parler de maintenant. La magie telle que moi je la conçois, telle que moi je la vis, telle que je la vois autour de moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément.
Tu vas pas nous faire de la fantaisie quand même?
La fantaisie, j'en ferai systématiquement. Mais tu vois, la magie, c'est plus une espèce de magie quotidienne. La magie des gens qui, par leur simple présence ou leurs actions, font que des choses qui pourraient mal tourner se rattrapent au dernier moment en branche ou simplement deviennent magiques, comme on dit à certains moments. Des moments privilégiés que des gens savent faire naître. Et puis, ils s'en vont, ils font un pas en retrait, ils reviennent dans l'ombre et le moment subsiste malgré eux. Et les gens comme ça, j'appelle ça les magiciens, j'en connais.
Ah, t'as de la chance.
Mais tu en connais aussi, sauf que il faut vraiment être rapide du coin de l'œil pour les voir agir, pour voir le mouvement de la main qui fait que ces choses-là se produisent, et surtout pour courir après la personne qui va dans l'ombre en disant merci. Et la plupart des gens ne le font pas.
Oui, comme tu dis, c'est des instants sans doute fugaces qu'on a du mal à reconnaître.
Qu'on a du mal à reconnaître sur le coup. On les reconnaît en général quelques instants après, et à ce moment-là, le magicien n'est plus là. C'est ça, un magicien, c'est quelqu'un qui détourne l'attention de lui-même, toujours en permanence.
Donc, ce nouveau recueil, on l'a attendu un petit moment. Est-ce que c'est dû justement à ton changement de perspective, ton changement d'écriture, que ça a tardé comme ça? Ce sont des nouvelles inédites? J'avoue que j'ai pas eu le temps de m'y pencher.
Oui, il y a une grande partie de nouvelles inédites. Enfin, il y a à peu près, en gros, 60% du recueil qui est totalement inédit, dont la nouvelle titre, qui est une novella, qui, elle seule, fait la moitié du recueil, en gros. Oui, bien disons, vous avez attendu un petit peu pour plusieurs raisons. La première, une raison bête, c'est que j'ai eu des petits problèmes de santé et que donc j'ai passé un certain temps pendant lequel les choses n'allaient pas bien, à la fois dans mon corps et par conséquent dans ma tête, si tu veux. Donc il a fallu laisser un petit peu le temps aux choses de se réparer. Ça n'a pas duré très longtemps, mais 2-3 ans, tu sais, ça va vite. Hein. Ça fait un gros trou dans une biographie. Et il y a le fait qu'il m'a fallu quelques années pour redevenir heureux, ce qui est une chose assez curieuse, mais j'ai eu, bon, il y a des détails un petit peu techniques, mais il y a eu des raisons pour lesquelles mécaniquement j'avais des soucis, disons, où mon corps réagissait différemment. Et là, depuis un an à peu près, je suis redevenu, d'abord par étapes et ensuite de manière pratiquement continue, âgée continue, si je puis dire, heureux comme je l'étais auparavant. Donc je me suis tout simplement remis à faire ce que je faisais, c'est remettre à écrire. Et j'écris pas seulement de nouvelles, mais je suis plongé dans deux romans simultanément là, en ce moment.
Ah,
là,
voilà. Je fais des choses. Justement, j'allais te demander, parce que je te parle toujours de tes nouvelles, mais ça va pas du tout, tu n'es pas qu'un écrivain de nouvelles.
Ben, je suis aussi un écrivain de romans, sauf que ça fait 10 ans que j'en ai pas écrit. Donc à partir de quel moment est-ce qu'on cesse d'être quelque chose quand on le fait plus? C'est une vaste question à laquelle j'ai pas l'intention de répondre. Ben, en tout cas, côté roman, donc je poursuis La guerre des cercles, que j'avais fait des choses, j'avais avancé, et je suis complètement revenu en arrière, et je repars avec une espèce de nouvelle direction, mais en gardant des bouts de ce que j'avais écrit qui peuvent fonctionner. Donc ça, j'avance bien. Et je suis en train d'écrire aussi une espèce de roman constitué de novellas qui se succèdent, et dont la première s'appelle Trois hurrahs pour Lady Evangeline. Elle a été publiée dans Bifrost, et cette histoire m'a toujours donné l'impression que, quand je l'ai eu terminée, que ce n'était que le début de quelque chose. Et donc je voudrais faire une espèce de fix-up, comme faisaient à l'époque les grands de l'ASF américains, qui sont ceux que j'ai lus, tu vois, ceux à qui j'ai envie de rendre hommage, les Asimov, les Heinlein, etc., qui faisaient vraiment des fix-up d'histoire. Comment s'appelle, Van Vogt en a fait aussi pas mal comme ça. Et donc je me suis planifié en quelque sorte 4 à 5 nouvelles se succédant qui pourraient raconter une histoire de manière continue, avec toujours le même personnage et avec des péripéties. Et c'est assez excitant à écrire. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai bénéficié d'un certain nombre de réflexions et d'échanges et de commentaires d'un autre écrivain pour qui j'ai énormément de respect et avec qui on a beaucoup discuté de ça. Et donc ça me permet d'avoir des bases un petit peu solides et des bases plus intelligentes peut-être que ce que j'aurais pu trouver moi tout seul, tu vois.
Est-ce que tu as d'autres projets avec Ayerdal, puisque vous aviez écrit en commun Étoile mouante?
Ben,
est-ce que
oui,
c'est en prévision?
On a une troisième idée qui pousse, qui se situerait entre Étoile morte et Étoile mourante, toujours dans le même univers. Bon, il y a aussi le fait qu'on a des projets de faire d'autres choses avec Ayerdal, qui ne sont pas nécessairement des livres, mais qui sont toujours dans le milieu éditorial. On en parle, on va peut-être faire une annonce bientôt sur ce sujet, tu seras mis au courant très vite. Toujours est-il, il y a les mots, on ne se perd pas, et chaque fois qu'on se voit, c'est pas seulement pour boire un coup, mais c'est aussi pour monter les projets, parce que on est, je crois, lui et moi, des gens qui aimons faire les choses, qui aimons que les choses se construisent à partir de rien. Et donc, on retrousse les manches et on fait. Et on a cette chance-là que, à l'âge qu'on a, on a raté beaucoup de choses, mais on en a quand même réussi quelques-unes, ce qui fait qu'on n'a plus de scrupules à essayer. Il y a des gens au début qui ont du mal à essayer un truc en se disant « ça va me planter ». Ben, moi, j'en ai planté plein. Mais c'est pas grave d'en avoir planté. L'important, c'est qu'ils en réussissent de temps en temps. Et quand on en a réussi de temps en temps, parfois, si ça doit planter, ça doit planter, mais au moins, on essaye. Et je préfère avoir 10 projets par an et en réussir 2 que pas avoir de projet du tout ou m'angoisser en disant « ça n'a pas marché, je tente ».
Oui, de toute façon, ce qui est réussi reste, quoi.
Oui, puis les échecs, je veux dire, les gens les oublient. Les trucs qu'on n'a pas écrits, les projets qu'on aurait pu monter, les anthologies avortées, les choses comme ça. Si c'est pas allé jusqu'au stade de « bah tant pis, c'était une belle idée, on la fera une autre fois », quoi. Tandis que les choses réussies, évidemment, les choses restent. Et ça, c'est une chose que j'ai appris dans toutes ces années-là, c'est que on peut renouveler les idées, les envies, et dans le tas, il y en a qui finissent par aboutir, quoi. C'est une question d'énergie. Tu presses suffisamment sur le tube, il y a tout le dentifrice qui finit par sortir, quoi. Je suis comme ça, moi je presse sur le tube dentifrice. C'est mon boulot.
D'accord. J'aimerais bien que tu parles un petit peu de ton côté écriture de chansons. Comment tu procèdes, pour qui tu écris? Parce que j'ai vu passer sur Facebook qu'il y avait un projet.
Ah ben oui, mais bon, des chansons j'en fais depuis, j'ai ma carte SACEM qui date de 1977 je crois, donc tu vois que ça date de l'époque où les dinosaures régnaient sur le monde. Des chansons, j'ai dû écrire plus de 400 textes de chansons, et j'ai travaillé avec très peu de gens connus dans le fond, mais avec beaucoup de gens, et beaucoup de gens de la région toulousaine, et j'ai travaillé en particulier avec un compositeur et une famille de compositeurs que j'aime vraiment beaucoup, qui sont les Willem, et qui sont mes amis depuis vraiment plus de 30 ans. On a fait plusieurs centaines de chansons ensemble. Et donc lui, après 30 ans à écrire des morceaux pour les autres, parce qu'il a écrit des chansons pour Corinne Lesage, pour René Seco, pour tout un tas de gens, on a décidé de faire un album à nous, notre album, qu'on a fini, voilà, qui est fini depuis quelques jours. On va peut-être revoir le son de certaines batteries sur deux morceaux. Enfin, tu vois, on est vraiment dans les ajustements fins. Et C'est un album qu'on va autoproduire et qu'on va sortir. Tu verras ça sur ma page Facebook bientôt. On a déjà une page MySpace dessus. Mais on va avancer. Et surtout, on a le sentiment que, ok, maintenant qu'on a fait ça, on va repartir pour de nouvelles aventures parce que on est toujours en train de faire des chansons. Et faire des chansons, si tu me demandes comment je fais, je les ai faites d'à peu près toutes les façons du manuel, c'est-à-dire d'abord écrire des textes en l'air, comme on dit, c'est-à-dire j'ai un poème qui sort, je fais le poème. D'avoir quelqu'un qui me passe une musique avec ce qu'on appelle du yaourt, c'est-à-dire quelqu'un qui fait et donc j'essaie là-dessus de mettre des mots. Quelquefois il me fait du yaourt en anglais, il faut que je mette du mot en français ou du yaourt en français, je fais des mots en anglais. Bon, c'est quelquefois t'as fait le texte en anglais, après on te demande de faire le texte en français, on se plaint parce que ça sonne pas comme l'anglais. Ça, t'as droit à la totale. Tu as des gens qui te disent tiens j'ai fait une chanson mais j'ai pris le couplet de telle chanson et le refrain de telle autre parce que ça allait mieux au point de vue vert, puis t'aperçois que le résultat veut absolument rien dire et le type s'en fout complètement, mais c'est pas grave, alors il faut rectifier au dernier moment, la totale quoi. Mais là on est dans un travail de collaboration, on est dans un travail d'équipe, d'abord parce que je suis pas du tout compositeur, c'est à dire que les rares chansons que j'ai composées de ma vie, je dois avouer qu'il vaut mieux les oublier et personnellement je refuse d'en parler. Heureusement, croyez-moi, soyez-moi reconnaissant. Mais par contre, tu travailles avec quelqu'un, puis ensuite qui travaille avec un arrangeur, qui ensuite travaille avec un preneur de son, qui travaille avec quelqu'un qui va être le mixeur définitif. Enfin, il y a toute une chaîne derrière. Et à toutes ces étapes, les choses peuvent merder. J'ai vu plusieurs fois dans ma carrière une chanson dont la maquette était magique, littéralement magique, avec quelque chose dont on se disait là, il faut le garder ça. Puis on passe en studio, on met plein de millions de matériel, et puis vraiment on a un truc d'enfer, et on a perdu cette magie-là. Après, on a quelque chose qui est froid, qui est techniquement correct, mais qui passe pas, et on comprend pas ce qui s'est perdu, on sait pas le faire, ça arrive. Et ce qui est très curieux aussi, c'est que le fils de mon compositeur, qui s'appelle donc Norbert Willem, son fils s'appelle Sandy Willem, il est connu sous le nom de Sandy V, et c'est devenu un des plus gros producteurs de dance music, de house music, etc. au monde. Il est à New York en ce moment, et c'est quelqu'un qui travaille avec Rihanna, qui travaille avec Katy Perry, qui travaille avec des gens comme ça, quoi, qui a fait le dernier album de David Guetta et le précédent aussi, enfin, qui a fait tout, enfin, c'est vraiment un type, c'est une star, quoi. Et du coup, nous, on est de temps en temps en contact avec lui, et de temps en temps, on se retrouve à faire des bouts de morceaux ou des contributions de morceaux, ou même un morceau, sur des albums qu'il est amené à faire, quoi. Et on a eu un ou deux cas dernièrement là, qui a été intéressant avec ça. Et c'est grâce à ça que j'ai signé mon premier contrat d'édition de musique, où je donnais les droits du morceau pour la Terre et pour l'ensemble du système solaire. Alors quand j'ai lu, mais c'est vrai, j'ai lu la clause, j'ai dit au producteur là, qui me faisait signer, j'ai dit bon, l'ensemble du système scolaire quand même, vous n'êtes pas un peu truc. Il m'a dit mais attends, c'est qu'on n'a qu'une seule trouille, c'est que les Chinois envoient des tas de satellites en orbite, et à partir de là, ils font du broadcast de radio, et comme il sera en orbite, il ne sera pas sur Terre, et donc ils ne paieront pas les droits. Les gens qui sont sur la Station Spatiale Internationale, s'ils décident de diffuser de la musique, ils ne payent pas de droits parce qu'ils sont en dehors de la couronne terrestre. Donc on prévoit le coup, et on se met dans l'ensemble du système solaire. J'ai dit, mais les droits martiens, vous allez me les verser quand? Il me dit, quand tu seras capable d'envoyer quelqu'un pour les chercher, tu les auras.
D'accord.
Voilà, donc il faut savoir que si jamais vous jouez un de mes trucs sur Mars, je vais toucher des sous, pas possible. Mais bon, ça va pas être tout de suite, on va dire.
Non. Dans toutes tes activités, quelle est celle qui prend le pas sur les autres? Quelle est celle qui est pour toi la plus naturelle? Est-ce que une nouvelle, ça te vient plus facilement? Ou une chanson sur un bout de table? Comment ça se passe?
Je fais tout en même temps. C'est ça que t'as pas l'air de réaliser, c'est que je suis en train de taper une nouvelle en même temps que le fichier de la nouvelle que j'ai écrite. J'ai toujours mon fichier de chanson ouvert. D'accord. Il peut me venir de vert, je les mets dans la chanson et je reviens à ma nouvelle. Et je peux répondre au téléphone et parler de quelqu'un d'Airbus parce que je suis en vacances, mais on me pose quand même une question, et faire ça et revenir à ma nouvelle, et puis après passer un jeu vidéo, puis revenir, et puis me lever pour aller préparer le repas de midi parce que Régine va rentrer, puis rentrer. Je fais tout en même temps. Je vois vraiment pas pourquoi je serrerai, tu vois, je séparerai. Et j'ai la chance de me dire que je mène un certain nombre de vies qui toutes sont essentielles pour moi. Et tu sais, la vie dans laquelle je me retrouve le mieux, c'est celle où tout simplement je regarde la personne que j'aime dans les yeux et je souris et je me sens bien. Je veux dire, c'est là où je suis au mieux de ce que je me sens. Mais après, si tu me demandes de choisir entre écrire, faire des chansons, faire des nouvelles, faire des romans, je ne choisirai pas, jamais. Je ne me poserai même pas la question. Même écrire un rapport technique sur un sujet qui m'intéresse, m'intéressera aussi que de faire une chanson, de faire une nouvelle. Ça fait partie du travail de communication, de don de quelque chose, et d'échange, de partage.
Tes journées sont de combien d'heures?
Je dors pas beaucoup, mais je dors quand même 6 heures. Donc je suis de 7 heures du matin à minuit, minuit et demi, quoi, comme tout le monde. Mais tu sais, par rapport à beaucoup de gens, j'habite à 5 minutes de mon travail, mes enfants sont grands, donc j'ai pas besoin de m'occuper de quoi que ce soit, tout fonctionne bien, je perds pas de temps, j'ai pas de télé. Ça aussi, ça joue. Alors, même si je regarde des tas d'épisodes de séries que j'ai téléchargés sur l'écran plasma que j'ai, je regarde jamais la télé, je veux dire. De temps en temps, je vois dans mon supermarché des trucs genre Gala Voici ou TF1 ou machin. Je vois des trucs qui disent machin est avec truc. Je n'ai pas la moindre idée de qui est machin, de qui est truc et ni même dans quel épisode il joue, tu vois. Donc je me dis, je suis à l'écart de
oui,
tout ça.
Tu ne perds pas de temps.
Je perds pas de temps. Et le fait de ne pas perdre 2 heures de trajet par jour comme un Parisien ou 2 heures de télé par jour comme beaucoup d'autres gens, ça fait quand même 4 heures au total dans la journée. Ça en fait des choses.
Oui.
En plus, je suis même pas stressé, si tu veux. Parce que le stress de faire mes 4 minutes de trajet pour aller à mon bureau, il est quand même minime. J'ai un feu rouge, il y a des fois il est au rouge, et là je râle complètement, mais bon, je suis pas complètement stressé non plus.
Et t'as pas un boulot qui stresse? C'est quand même un boulot important.
J'ai un boulot qui stresse, comme tous les boulots, mais je n'ai pas un boulot dans lequel j'accepte d'être stressé. Si tu veux, d'abord il n'y a pas mort d'homme, ensuite parce que ce que je fais m'intéresse. À partir du moment où je m'intéresse aux choses, le stress qui existe, parce qu'il y a des dates de remise, parce qu'il est... Il s'inscrit quand même dans une espèce de bonheur général de dire j'ai quand même de la chance de faire ce que je fais. J'ai quand même de la chance de travailler dans une entreprise qui est une des merveilles technologiques d'Europe et dans laquelle beaucoup de choses marchent bien. Tu vois, beaucoup de perspectives, beaucoup d'idées. Je suis entouré d'en permanence un travail de créatif, de projeter dans l'avenir. Enfin, pour moi, c'est passionnant. J'ai cette chance-là.
Je meurs, je reviens. Mais en fait, j'ai 15 minutes, donc écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pendant que je meurs?
Non, mais écoute, je veux dire, dès qu'on aura terminé cet enregistrement, je te sauterai dessus pour te faire un bouche à bouche de la mort pour te ressusciter. Et donc, a priori, la prochaine émission sera enregistrée de façon normale par quelqu'un qui aura retrouvé un souffle ordinaire. Voilà. Tu vois?
Parfait. Bon, bah, je vois que tu as survécu. Je pense que Jean-Claude, il a son brevet de secouriste.
Oui, j'ai ressuscité.
Ah ouais. C'est tout ce que t'as à dire. Jean-Claude Dugnac, t'as fait du bouche à bouche. T'as rien d'autre à dire.
Bah non.
T'as pas été touché par la grâce, je sais pas moi.
Malheureusement, le talent n'est pas.
Ça se transmet pas par la bouche.
Pas par la bouche.
Mais ouais, franchement, quand tu entends tout ce qu'il fait et tout, tu te demandes comment il trouve le temps quand même.
Oui, il a beau dire, il y a quand même un mode multitask dans son cerveau.
Ouais, c'est clair.
Parce que pouvoir à la fois écrire des chansons, répondre à une question technique et écrire une nouvelle à la fois, moi je peux pas.
Et faire à manger.
Et faire à manger.
Quel homme exceptionnel, il fait à manger à sa femme. Alors ça, c'est de la science-fiction.
Oui, mais je crois qu'effectivement, bon, ça va faire bateau de dire ça.
Quoi ?
Mais je crois qu'effectivement, Jean-Claude Dugnac est un homme exceptionnel.
Bah, c'est un surdoué. Et j'ai un copain à Yordal, alors, de toute façon, pour être copain avec Yordal, faut en avoir un petit peu dans la tête, hein.
Oui, Alice ne s'est toujours pas remis de sa rencontre avec Yal.
Oh là là, t'es vilaine. Moi, j'adore comment il écrit.
Mais oui, bon, mais on parle pas de Yal.
Oui, mais c'est un... Et il a quand même écrit... Ils ont écrit à quatre mains. Donc, j'ai le droit de parler d'Yordal parce que c'est pas n'importe qui dans la vie de Dugnac et inversement.
C'est vrai.
Voilà.
Et ils ont écrit... Ils sont arrivés à une symbiose assez exceptionnelle, d'ailleurs.
Voilà.
Toi qui as lu le roman.
Oui.
Parce que je l'ai toujours pas lu.
Ah, un coup de pied dans tes fesses.
J'ai pas le temps.
C'est pas grave. Moi, je l'ai lu, moi.
Parlons d'abord des romans de Jean-Claude Dugnac. Je vais laisser Alice en parler parce que moi, j'ai pas eu le temps de les lire.
Est-ce que je te frappe tout de suite ou quand t'auras coupé
j'ai
le son?
J'ai pas eu le temps.
Bon, je te frapperai après, sinon ça va faire moche sur la bande.
Bon, c'est essentiellement Étoile morte.
Ouais.
Et Étoile mourante, qu'il a pas fait tout seul.
Oui, mais bon, ça, bref. Pour l'instant, Étoile morte, voilà. Eh ben, tu connais Faulkner? Non.
Non. Il n'a pas eu le temps.
Il n'écrit pas du tout de la SF.
Oui, c'est pour ça, je n'ai pas le temps.
Ben, si tu veux, sur ce roman-là, Dugnac, t'es dans une espèce de bulle. Voilà, t'es dans une bulle, t'es dans la bulle, je dirais, du personnage.
de sa vie un peu étrange où il sait pas trop où il est un peu paumé et où il se promène d'un animal vil à un autre. Et tu es tout le temps avec lui. Il croise assez peu de personnages, c'est un peu toujours les mêmes. Il est dans une sorte de quête pour savoir un peu. Mais il comprend pas, en fait, il comprend rien. Voilà, il est paumé, quoi. Il sait pas trop ce qu'il fout là, où il est, pourquoi. Voilà. Donc tu vas suivre avec lui ces méandres là pour arriver à trouver pourquoi il est dans cette situation là. Et t'as été dans une ambiance assez, je dirais, feutrée. Voilà. T'es dans un genre de bulle, un cocon, et quand tu refermes le bouquin, ben, t'es déphasé. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur quand il a été fini. Parce que Dunia, il a su faire une bulle où t'es bien dans la bulle et t'as pas envie de sortir de la bulle. Voilà.
C'est fort, ça.
Ouais, c'est fort, ouais, c'est clair. Et Sarah était d'accord avec moi, Sarah, donc tu sais qui c'est. Et elle était d'accord avec moi là-dessus, que t'es dans une ambiance particulière. Et elle m'a dit, mais tu sais, c'est un roman qui plaît beaucoup aux femmes. Voilà. Et ben moi, je suis une femme et ça m'a beaucoup plu. Voilà.
Les lions de la SF.
Et après, par contre, Étoile mourante, où ils sont tous les deux. Il y a plus de pêche, c'est plus dans le space op, tu vois. Il y a la dimension politique, la réflexion philosophique, c'est beaucoup plus poussé. C'est deux romans différents, même s'ils partent d'une même base, c'est vraiment deux romans différents. C'est vachement dur de savoir qui a influencé qui. Parce que ça, c'est un roman de Jean-Claude Dunia, mais quand tu lis ses nouvelles, c'est pas la même chose que ce roman-là. Il est capable de faire plein de trucs différents, très différents. Donc, Étoile mourante, c'est autre chose. Ce qui donne l'impression que tout a changé, c'est qu'il y a écrit Heyerdahl aussi sur le bouquin, donc tu dis, ah bah ça, voilà, c'est Heyerdahl. Non. Non, non, non.
Voilà, tu me piques ma réplique.
Bien fait pour toi, t'avais qu'à parler plus vite.
Non, parce que je voulais justement parler des nouvelles. Et ce qui m'a vraiment frappée à la lecture du dernier recueil, c'est justement que Jean-Claude Dunia a une imagination débordante, mais quand je dis ça, c'est pas dans le n'importe quoi, c'est pas l'imagination pour les imaginations. Je veux dire par là qu'il a une foule d'idées complètement différentes, vachement intéressantes. Il y a toujours un enjeu dans ses nouvelles, quelque chose d'important qui se joue. Et il a une écriture qui est au service de ça et qui est...
Bah tu vois, toi aussi, t'as du mal.
J'ai du mal.
Voilà, bah ouais.
Et qui est super bien.
Voilà. Bah voilà.
Mémo pour action. De Tritops, DSD, à tout dinosaure. Objets, astéroïdes et divers. Mon équipe vient de détecter un astéroïde plutôt volumineux qui se dirigerait approximativement vers nous. Il faudrait qu'on en parle assez vite. Et je rappelle que nous n'avons toujours pas reçu le compte-rendu des actions à planifier afin de limiter la destruction préoccupante de nos œufs par les petits prédateurs. J'attends vos propositions. Tritops. Direction de la stratégie dinosaurienne. 2. T-Rex, opération carnivore. A. Tritops, copie tout dinosaure. Ça veut dire quoi, plutôt volumineux, pour un tricératops? Nous autres, tyrannosaures, on sait encaisser et on a besoin de personnes pour surveiller nos nids. T-Rex. 2. Bronto, ressources. A. Voir liste restreinte. Copie, pas de copie. Objet, astéroïde. T-Rex a au moins raison sur un point. Impossible d'envisager une action sans données détaillées. Mon équipe a préparé un questionnaire, voire pièce jointe, demandant une estimation précise des différents scénarios associés à l'astéroïde en question avec indicateurs chiffrés et jalons. Merci de répondre vite. On a un planning prévisionnel de broutage à mettre en place ici et on n'a pas le temps de regarder en l'air comme certains. Signé Bronto. PS. Faut-il réellement mettre les carnivores dans la boucle décisionnelle? Leur présence aux réunions rend les autres nerveux et ils sont minoritaires de toute façon. Entre parenthèses, répondre en privé. 2. Tritops, direction de la stratégie dinosaurienne. A, tout dinosaure. Objet, astéroïde, éléments détaillés. Suite à vos demandes, veuillez trouver ci-joint les éléments détaillés de chiffrage relatifs à l'astéroïde en objet, ainsi qu'une palette de scénarios établis par mon équipe. Je rappelle que cet astéroïde est un caillou de grande taille qui se dirige vers nous. Une action doit être mise en place par vous en urgence. J'attends vos suggestions, Tritops. 2. Meg à Terium, service du personnel à Tritops. Objet, votre caillou. Vous n'êtes pas un peu cinglé, les Triceratops? Votre mémo urgent est si épais qu'il menace de déborder de ma corbeille. Je veux une demi-page par scénario plausible et je me fous des classes extrêmes. D'ailleurs, je vous rappelle que le rôle de la direction de la stratégie se limite à renforcer les synergies interespèces et à favoriser l'intégration verticale de la pyramide dinosaurienne avec des perspectives moyen-long terme. Vous n'êtes pas là pour faire peur au monde entier. Voyez avec le service communication comment positiver votre découverte et en attendant, évitez d'en parler à n'importe qui. J'attends un résumé pour action. 2 pages maximum. Avant demain. Meg Atherium. 2 Tritops à PDG. Copie, Bronto, T-Rex, Megatherium et tout dino plus gros que moi. Objet, mémo pour action. Monsieur le premier dino géant, mon équipe, forte de sa compétence acquise au service des missions stratégiques que vous nous avez confiées, a détecté il y a quelque temps une source potentielle de problèmes à court-moyen terme. Il s'agit d'un gros astéroïde qui se dirige droit sur nous. J'ai informé les services concernés, mais sans résultat, voire pièce jointe. Je suis prêt à coordonner les actions que vous jugerez appropriées pour résoudre ce problème, dont je tiens une fois de plus à souligner l'urgence. Tritops, direction de la stratégie dinosaurienne. 2. T-Rex, A, V, Raptor, objet, le fichu caillou de Tritops. Cette histoire commence à sentir mauvais. Je ne crois pas que c'était une bonne idée de la confier à l'équipe de la stratégie, surtout maintenant que PDG est en copie. Créons une task force. Je vais proposer ton nom, mais il me faut du budget. Tu peux couper sur l'action protection des œufs dont tu t'occupes et récupérer un peu de cash, juste histoire de démarrer. J'ai une paire de jeunes herbivores qui viennent pour un entretien de stage. On pourrait en profiter pour se faire une bouffe. T-Rex, opération carnivore. 2. V. Raptor. A. Bronto. Meg. Atherium. Tritops. Copie. PDG. Objet. Task Force. Astéroïde. À la demande de T-Rex, j'hérite de l'action du suivi du thème astéroïde. Merci de me rajouter dans vos listes de diffusion et de m'envoyer la totalité des documents relatifs à cette affaire. Je vous ferai parvenir les organigrammes décisionnels de la Task Force créée à cette occasion. En préliminaire à toute action, nous discuterons de l'intitulé de vos postes au sein de la task force et de ce que seront vos fonctions avec budget associé, s'il vous plaît. Urgent. V. Raptor. 2. Dino Consulting. A. Cœur de cible. Tout méga dino. Objet. Valorisation de l'astéroïde. Stratégie. Positionnement. Idée. Après analyse détaillée du contexte, voire rapport et facture ci-joint, nous suggérons les approches suivantes pour une stratégie positionnelle d'encerclement bien dimensionnée vis-à-vis de la cible. 1. Lancer une refonte globale du processus accueil des astéroïdes. 2. Valoriser l'apport de l'astéroïde et son impact, que nous supposons majeur, sur la société dinosaurienne. Notre département d'évaluation financière serait un partenaire valorisant de cette action. 3. Bâtir, en conjonction avec notre filiale Dino Training, une formation multi-utilisateur pour garantir l'émergence d'une prise de conscience globale des acteurs concernés vis-à-vis de l'objectif. Nous restons à votre disposition, Dino Consulting, un seul chemin, l'excellence. 2. PDG, A, tout Dino. Objet, astéroïde, suite et fin. Vous pouvez cesser toute action sur l'astéroïde en objet. J'aperçois votre caillou de ma fenêtre, ce n'est qu'un petit point brillant vu d'ici. Le problème semble devoir se régler tout seul très bientôt. S'il y a des suites à donner, je propose de laisser les mammifères s'en charger. C'est bien leur tour de travailler un peu. Premier dino géant, absent pour signature. Mes mots pour action figurent dans le deuxième opus des sept, pour l'instant, recueils de nouvelles consacrés par l'Atalante à Jean-Claude Dugnac. Ce deuxième opus s'appelle 10 jours sans voir la mer. Tous ces recueils sont illustrés superbement par Gilles Francescano, soit dit en passant. Si vous suivez un petit peu les Lyonnes, vous avez pu entendre Alice dire combien elle était frustrée par les nouvelles lors de l'émission consacrée à Lionel Davoust. C'est un sentiment assez largement répandu. Et très souvent, le lecteur apprend à savourer les nouvelles après qu'il se soit fait la dent sur des cycles interminables tels qu'on en connaît pas mal dans notre genre de prédilection. Mais Alice n'a pas eu le temps de vous dire combien elle apprécie les nouvelles de Jean-Claude Dugnac. En effet, une bonne nouvelle se suffit à elle-même. Et celle de Jean-Claude Dugnac ne déroge pas à la règle, loin s'en faut. Ce sont de petits diamants finement ciselés. Et je ne saurais que vous conseiller, si, même si vous n'aimez pas les nouvelles, de vous pencher sur les recueils édités par l'Atalante. Ne serait-ce que parce que, ils sont pas gros, ils sont pas chers, et pour l'avoir expérimenté, je l'ai fait lire à moult personnes qui n'aimaient pas les nouvelles, et ils ont tous adoré. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait avéré scientifiquement. C'est toujours pareil, si vous êtes déçu, si j'ai menti, vous m'écrivez à lyonnes@gmail.com et puis vous me le dites, Flo, tu t'es trompé, t'es vraiment trop nul. Mais là, franchement, sur ce coup, je suis sûre de moi. Nous avons parlé, Alice et moi, de seulement deux romans de Jean-Claude, que sont Étoile morte et Étoile mourante. Mais il ne faut quand même pas oublier ces autres romans qui sont parus au Fleuve Noir, comme Le Jeu des Sabliers, Rollover Anne Mussen, La Guerre des Cercles. Mais on n'en a pas parlé parce que on n'a pas eu le temps de les lire. On est nul en fait. About you 100 times to the moan of your voice and mine. I scroll your face with a dreadful pain, like a demon hidden in a cloud. Eh bien non, je n'ai pas fini de parler, j'ai encore des choses à vous dire. Je voudrais vous parler d'un roman d'Emmanuel Maya intitulé « L'âme de ténèbres » et paru chez Rivière Blanche. Plus exactement, il s'agit d'un roman suivi de 12 nouvelles, ainsi que d'un court récit sur les aléas de la vie d'auteur de l'auteur. Et on trouve également une postface de Jean-Claude Dugnac. Dans ce roman, Emmanuel Maya met en scène parallèlement deux intrigues, une qui se déroule en 2010, À Aubeclair, c'est un lieu de vie pour des personnes aux handicaps très lourds. Des crimes monstrueux y sont perpétrés et Gino Morandi et Serge Deschamps, qui sont chargés de l'enquête, auront bien à faire. Parallèlement donc, toujours à Genève, en 1912, nous avons l'histoire de Claire de Sény qui s'ennuie ferme en cure jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune poète rebelle qui lui redonnera goût à la vie et provoquera en elle de doux émois. Ce qui frappe chez Emmanuel Maillat, c'est la simplicité de son écriture. Attention, je parle de simplicité et pas de simplisme. On a vraiment quelque chose de très dépouillé, de très précis. Et on a également beaucoup de sensibilité sans tomber dans la sensiblerie. Elle aurait pu nous faire un pathos pas possible avec les handicapés et elle tombe pas du tout là-dedans. Au contraire, il y a quelque chose de très pur chez ces personnages. J'ai pas trouvé que dans ce roman il y avait un suspense complètement délirant. Cependant, l'histoire est vraiment intéressante et puis on s'attache à Claire de Sény. Moi, j'ai même regretter que la période 1912 ne soit pas un peu plus fouillée. C'est vraiment super bien décrit et on aurait envie de poursuivre un petit peu dans cette veine. Par la suite, les nouvelles sont assez courtes et elles sont assez marquantes pour la plupart. Depuis que j'ai lu cet ouvrage, j'ai parfois des souvenirs de textes qui me reviennent et je me dis, ah oui, mais c'est vrai, c'était Emmanuel Maillat dans telle nouvelle. Et bah voilà, c'est du joli boulot. On passe au lourd avec Bragelonne. Bragelonne et l'Odyssée du temps d'Arthur C. Clarke et de Stephen Baxter. L'Odyssée du temps qui se paraîtra en 3 tomes, dont les 2 premiers pour l'instant sont parus chez Bragelonne Science-Fiction, sous la direction de Tom Clegg. Tom Clegg qui a succédé à ce poste à Jean-Claude Dugnac. Décidément, on est dans la droite ligne, on est vraiment dans un spécial Jean-Claude Dugnac aujourd'hui. Bon, je vais pas vous raconter en détail tout ce qui se passe parce que bon, c'est pas que j'ai pas envie, franchement j'ai très envie, mais le temps tourne et vous devez en avoir marre de m'entendre. Sachez seulement que le premier tome est très axé sur l'histoire. On y voit notamment Gengis Khan, Alexandre le Grand. Tandis que le deuxième tome est très hard science, avec autant de la grande technique, sur des techniques de décollage de terre, sur une technique de bouclier destinée à protéger la terre de l'éruption solaire, la tempête solaire, que scientifique, avec notamment des explications sur le fonctionnement du soleil. Et tout ceci est absolument passionnant. J'ai hâte, réellement hâte, que le troisième tome sorte, parce que j'aimerais bien savoir où ils vont nous mener.
Ouais, Liliane de la SF! Liliane de la SF!
Liliane de la SF!
Oui, bah c'est France Culture aujourd'hui. Voilà. Tu me dis, je parle, je suis sérieuse. Mais